On vous retrouve, Caroline Brouet, pour la suite de la Grande Table, une Grande Table européenne.
Une Grande Table européenne, bien sûr. Je vous annonçais un joyeux bazar tout à l'heure, c'est une émission spéciale. À vrai dire, la joie n'est pas sur tous les visages. Nous l'avons entendu avec l'artiste Anish Kapoor et un certain nombre des témoignages que vous avez diffusés dans votre journal. Nous l'entendons également avec l'écrivain qui est avec nous par téléphone, Robert McLiam Wilson. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes écrivain nord-irlandais, vous vivez à Paris depuis une dizaine d'années, horrifié, disait Anish Kapoor. Aujourd'hui, l'histoire frappe à notre porte, disait le président de la République française. Dans quel état d'esprit vous êtes-vous réveillé ce matin?
Très honnêtement, je vais pas super bien. Je me suis levé ce matin plus pauvre que hier, très littéralement, comme vous, comme tout le monde, dans tous les sens, pauvre.
Pas tout le monde. Pas tout le monde.
Émotionnel, politique et tout.
Pas tout le monde, pardon, Robert McLiam Wilson. Pas tout le monde.
Ouais, ça va arriver,
52% des Britanniques sont très heureux.
Ah oui, mais n'empêche que ce résultat, c'est une catastrophe. Mais vraiment. Et je crois que, en fait, la réaction française était assez maligne parce que on a déjà commencé de parler là-bas de fait que c'est une vote xénophobe, très simplement. Et c'est pas du tout le cas. La campagne Remain a été arrogante, paresseuse, stupide et maladroite. Et bien sûr, l'immigration a pas mal joué. Mais je crois que c'était plutôt quand ils ont commencé de dire qu'il fallait voter pour le statu quo. Ça, c'est le truc le plus stupide que j'ai entendu de ma vie. Parce que c'est d'inviter les gens défavorisés qui regardent autour de leur statu quo et qui se disent, bah, non, ça suffit, quoi. Mon statu quo est pénible. C'était à côté de la plaque.
Robert McLiam Wilson, en plateau, ici, avec moi se trouve Marielle de Sarnez, qui nous fait le plaisir de rester avec nous, députée européenne, vice-présidente du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, et nous a rejoint aussi autour de la table Sarah Picard. Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique contemporaine, ici à Paris. Toutes les deux, vous approuviez ce que vous entendiez, en particulier concernant le statu quo, Marielle de Sarnez.
Bah oui, il avait raison. Je veux dire, proposer au peuple le statu quo, ça peut pas fonctionner. Le statu quo, il est mortel. Il est absolument mortel. Il faut évidemment changer les choses. Alors après, c'est un défi considérable, mais c'est un défi qu'il faut relever. Parce qu'on a plus que jamais, au fond, besoin de... J'ai pas envie de dire refonder, tout le monde le dit, quoi. Mais cet idéal européen pour lequel on a envie de donner sa vie, de se donner maximalement, le fait d'être ensemble pour aborder et pour répondre aux grands défis du monde, il est absolument vital. Mais il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on change de logiciel. On peut plus, comme ça, donner le sentiment que tout ça se fait sans les peuples, ou même quelquefois contre les peuples. J'entendais tout à l'heure François Hollande, ce qu'il a dit était absolument correct, mais il y a une phrase où il a dit quand même l'Europe ça va pas. Écoutez, ça n'est pas raisonnable. Il n'y a pas une décision en Europe, une orientation en Europe qui se prenne et qui soit validée par les gouvernements et en particulier par le gouvernement français. Donc il faut arrêter avec cette schizophrénie. Il faut avoir le courage d'avoir une vision. Il faut avoir le courage peut-être de repartir, j'espère que ça va pas vous choquer, mais de repartir d'une page blanche. Il faut qu'on redise à quelques-uns ce que nous avons à faire ensemble. Pourquoi nous sommes ensemble? Pourquoi nous pensons que c'est vital et essentiel d'avancer ensemble? Et puis ça, peut-être qu'il faudra ensuite proposer cela au peuple. Moi, je n'ai pas peur des peuples dans cette question européenne.
Sarah Picard, vous êtes surprise par ce résultat qu'on a annoncé inverse hier soir?
Je suis assez surprise et puis je dirais que ce discours idéologique des effets positifs de l'Union européenne a été quasiment absent du débat en Angleterre, sauf un peu chez l'hiver, et c'était beaucoup plus un discours isolationniste, individualiste, basé sur l'économie, l'immigration, et qui a fait sortir des questions de l'immigration, une sorte, bon, tout à l'heure on a parlé de xénophobie, mais un discours négatif par rapport à l'immigration qui n'existait pas avant au Royaume-Uni. Donc c'est un petit peu malheureux de voir ressurgir les immigrants comme bouc émissaire de cette question et de les voir comme question négative. Or, les problèmes viennent quand on parle du fait qu'on veut garder les statu quo. Bien sûr que les gens ne veulent pas parce qu'ils en souffrent. Et donc, on a les personnes qui voulaient sortir de l'Union européenne ont montré du doigt les immigrants comme mais il y avait aussi des questions structurelles. Pourquoi les gens sont malheureux? C'est parce qu'ils ont vécu 6 ans d'austérité. Et donc, c'est facile de dire, ben voilà, si on a des problèmes dans les services publics, manque de logement, ben, c'est à la faute des immigrants. Et c'est quelque chose de très nouveau en Angleterre. Et Nigel Farage, il en est pour beaucoup de choses.
Robert McLean-Wilson, vous vous sentez catastrophé en tant que Nord-Irlandais, en tant que citoyen du Royaume-Uni, en tant qu'Européen, tout ça à la fois. Est-ce que le fait que vous soyez aussi d'Irlande du Nord joue dans votre réaction?
Tout à fait, parce que en Irlande du Nord, un peu comme en Écosse, c'est très difficile à calculer les répercussions de tout ça. On ne sait pas, en fait. Moi, je ne suis pas expert, mais je crois qu'il n'y a personne qui est expert à ce moment. C'est très difficile à prévoir. Tout d'un coup, la frontière en Irlande du Nord devient complètement autre chose. Ça sera très difficile pour l'économie du Sud. En plus, ça pourrait devenir une frontière pour cette question très vexante d'immigration et tout ça. Et il y aura peut-être des petites tensions en Irlande du Nord. Parce que moi, je me suis trouvé ce matin, j'étais d'accord avec Sinn Féin, les nationalistes, la branche politique de l'IRA, pour la première fois de ma vie. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y a plus de mandat en Irlande du Nord. Parce qu'on a signé des accords avec le Royaume-Uni, avec Grande-Bretagne, et c'était fondé sur l'idée qu'on faisait partie de l'Europe. Et tout ça, c'est complètement changé.
Ça rebat toutes les cartes, Maria de Sarnez.
Toutes les cartes, et ça va poser des questions, c'est ce que je disais au début de l'émission, ça va avoir des conséquences qui sont extrêmement lourdes. Je parlais de l'Écosse, on a entendu à l'instant notre ami parler de l'Irlande du Nord. Revoir des frontières entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire chez les Irlandais. C'est quelque chose qui est impossible. Donc il va y avoir des basculements, il va y avoir des risques, il va y avoir de la décomposition, il va y avoir une recomposition peut-être après ces décompositions, il va y avoir beaucoup de choses. Et je veux reparler un mot sur la question des migrations. Moi, ça m'a toujours frappé qu'on parle des migrants en Grande-Bretagne, alors que ce sont des Européens dont on parle, quand on dit migrants. Tout le monde pense qu'on parle des migrants des pays tiers, vous savez, des pays qui sont en dehors de l'Europe. Mais en fait, en Grande-Bretagne, on vise des Européens.
Ils viennent de l'Est
de
l'Europe.
Des gens qui ont décidé avec nous de faire l'Europe, qui sont venus en Grande-Bretagne pas pour se reposer, pas pour bénéficier des prestations sociales, qui sont venus bosser, qui sont venus travailler, qui sont venus aider aussi à l'économie de la Grande-Bretagne. Et donc, il y a quelque chose là-dedans. La Grande-Bretagne en a bénéficié dans son économie. Ils travaillent. Et donc, travaillant, ils ont évidemment des droits. Et donc, il y a eu quelque chose de terrible là-dedans. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe tout le temps, c'est qu'on a toujours besoin, et c'est ça que je déteste, d'aller chercher des boucs émissaires. Alors, pour les uns, c'est l'Europe. Pour les autres, c'est les migrants. Pour les troisièmes, ça va être la finance. On doit sortir de ces temps où on a toujours besoin d'aller chercher des boucs émissaires, parce que là, ce sont des temps de tous les dangers. Et la responsabilité des hommes et des femmes politiques, c'est de regarder avec lucidité ce qui se passe, d'essayer d'apporter des réponses qui dépendent en partie de nous, de notre courage à appréhender les questions, de notre courage à anticiper les bonnes réponses et à prendre les bonnes décisions.
Marielle de Sarnez, Sarah Picard et Robert McLean-Wilson, je voudrais vous proposer d'écouter le témoignage d'un autre écrivain britannique contacté ce matin par téléphone par Clémence Marie. C'est Adam Thirlwell. Adam Thirlwell est britannique, il est né à Londres en 1978. Il fait partie de la jeune génération. Aujourd'hui, les jeunes, on le sait, et je vous poserai la question tout à l'heure, Sarah Picard, était plutôt anti-Brexit pour rester dans l'Union européenne. Adam Thirlwell a écrit Politique, l'évasion, le livre multiple, son dernier livre, c'est Candide et Lubrique, paru aux éditions de l'Olivier en France. Écoutez sa réaction donc au micro de Clémence Marie.
Et évidemment, je suis complètement écrasé, je suis très déçu. C'est complètement inouï, je crois. Et donc, je ne savais pas du tout que ça pourrait se passer. C'est vraiment un choc total. À ce moment, je pense que personne ne sait vraiment ce qui va se passer. C'est un désastre, à mon avis. C'est un désastre financier et politique, mais aussi culturel, parce que pour moi, oui, la Grande-Bretagne, ça fait partie de l'Europe. C'est lié à la France, à l'Allemagne. Presque tous mes amis ici à Londres, dans les arts, ils sont européens. Ils sont des Suisses, des Français, des Italiens. Il y a toute une histoire. Et donc, d'essayer de refuser ça, c'est bête. Et en même temps, c'est très triste. Je ne sais pas, c'est comme si on est dans une guerre. Alors, évidemment, c'est pas aussi mélodramatique que ça, mais c'est aussi fort, cette impression de soudain de se réveiller dans une nouvelle réalité.
Vous aviez des débats entre vous, entre écrivains?
Oui, je crois que le problème, c'est vraiment presque un problème. C'est un problème de classe et de géographie, parce que je crois que moi, j'habite à Londres, et donc parmi les gens que moi, je fréquente, personne ne pensait pas que cela pourrait vraiment se passer. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un écart, un déchirement total entre Londres et l'Angleterre. Je ne sais pas si vraiment c'est l'Europe que tout le monde déteste. Je pense que évidemment il y a eu la crise ici, et je crois que ce qui s'est passé, c'est que l'idée d'une culture politique c'est vraiment écrasé. Et donc maintenant on veut blâmer quelqu'un. On a choisi l'Europe, mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, toujours, il y a eu cette ambiguïté en Angleterre, que tout le monde veut être à la fois anglais et européen. Mais je ne savais pas vraiment que cette ambiguïté pourrait se convertir en refus total.
Est-ce que vous-même, vous vous êtes toujours senti plutôt comme un Britannique faisant partie de l'Union européenne, ou vous aviez vraiment conscience d'être un citoyen européen? Est-ce que pour vous, le problème est avant tout britannique, ou c'est un problème européen?
Je me suis toujours considéré, je crois, que peut-être plutôt européen que britannique, que la culture que j'adore, et même en tant qu'écrivain, la littérature que j'adore. Oui, il y a cette contradiction anglaise, mais moi, en tant que romancier, je crois que je me sentais toujours un peu plus lié à la tradition plutôt européenne et plutôt française. Ici, c'est possible de dire qu'on est européen sans vouloir vraiment faire partie, j'imagine, d'une entité politique qui s'appelle l'Europe, qui s'appelle l'Union européenne.
France Culture, la Grande Table, Caroline Brouet.
On entendait à l'instant l'écrivain britannique Adam Thirlwell, émission spéciale Brexit, aujourd'hui en compagnie de Marielle de Sarnez, qui est députée européenne et qui est vice-présidente du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Autour de la table également Sarah Picard, qui est maître de conférences en civilisation britannique contemporaine à Paris, et au téléphone avec nous Robert McLiam Wilson, qui est un écrivain nord-irlandais. Vous l'entendiez quand même, Adam Thirlwell, parler de l'écart, du déchirement entre les artistes et le reste du peuple, entre ce qui est considéré comme l'élite à Londres et le reste de la Grande-Bretagne. Il parlait d'un problème de classe et d'un problème de géographie. Vous, tout à l'heure, Marielle de Sarnez, disiez on ne peut pas faire l'Europe sans les peuples. Oui, mais alors, comment on fait aujourd'hui avec ce vrai déchirement? Et on l'entend là, autour de la table. On n'a pas le déchirement parce que vous faites, en gros, partie tous, là, de l'élite. L'élite est-elle aujourd'hui contre les peuples, Sarah Picard?
Et le peuple a voté contre l'élite, justement. de tous les partis politiques. C'est très frappant. Et donc, il faut comprendre que les villes du Nord qui ont été industrialisées, qui ont souffert avec la crise, comme monsieur vient de dire, mais aussi qui sont, se sont désabusées par les hommes politiques avec les scandales des notes de frais et d'autres phénomènes. Et on voit un énorme écart entre Londres et le reste de l'Angleterre. C'est très frappant, mais aussi il ne s'agit pas justement des personnes issues des partis conservateurs, les électeurs traditionnellement conservateurs. On a vu un grand glissement des personnes issues de la classe ouvrière, les électeurs traditionnels travaillistes qui ont tourné le dos au parti, le parti travailliste qui n'a pas su ou qui n'a pas voulu expliquer les bénéfices au niveau social de l'Union européenne. Donc il y a un refus envers la classe politique de toutes couleurs.
Robert McLean-Wilson, sur cette multifracture sociale, politique, générationnelle, économique, géographique.
Adam Selwell, il avait bien raison par rapport à cette idée que c'est une question de classe. Et aussi l'idée que c'était vraiment pas prévu, parce que je crois que les élites, aujourd'hui, reconnaissent pas leur pays. Et en fait, ils sont assez tard pour comprendre à quel point ils sont. Il y a un décalage entre les élites et le peuple. Et moi, j'ai parlé avec mes potes tout à l'heure à Belfast et en Angleterre, y compris des gens qui étaient infirmières, chauffeurs de bus et tout ça. Et il y en avait qui votaient pour partir. Et ce ne sont pas des monstres, ce sont des gens légèrement conservateurs, mais qui se sentent pas du tout représentés par soit l'Europe, soit Londres. Et en fait, cette vote, c'est une espèce de manif. C'est un peu la maladie de l'Europe maintenant que la gauche fait n'importe quoi. La gauche prend un petit somme et en Angleterre, c'est un peu comme ici, c'est la gauche version Coca Light, la gauche light. Et ça m'inquiète énormément parce que depuis assez longtemps, l'ensemble des sondages nous montre que, en fait, bizarrement, l'Europe est plus populaire en Grande-Bretagne qu'ici, en France. Et ça, je trouve ça consternant.
Marielle de Sana, je ne vais pas vous tendre une perche sur la responsabilité de la gauche, hein, ce serait trop facile.
Non, mais j'ai pas envie. Alors, je vais vous dire, j'ai pas du tout envie de faire de la politique politicienne dans tout ça. Je pense que oui, il y a des responsabilités. Je pense que les chefs d'État et de gouvernement en Europe, en particulier la France et aussi l'Allemagne, ont des responsabilités, et ceux des pays fondateurs aussi. Je pense qu'ils ont été dans l'incapacité d'apporter les bonnes réponses à toutes les crises qui se sont accumulées depuis des années et que tout ceci n'a pas arrangé les choses. Mais je voudrais revenir sur la question fondamentale, peuple, élite, élite, peuple. On y a eu la même chose au moment du vote sur la Constitution en France. Hein. On avait entre guillemets ce qu'on appelait les élites en 2005, qui disaient « ça va être le oui qui va l'emporter, il n'y a aucun problème, un document qui fait 500 pages ». Nous, on disait avec François Bayrou, écoutez, un document de 500 pages, c'est simplement pas possible. Vous ne pouvez pas envoyer aux gens chez eux dans une enveloppe un document de 500 pages qui est incompréhensible. Pour, si on veut faire une référence avec la loi El Khomri qui fait 151 pages, c'est toujours un espèce de mal technocratique qui est rédhibitoire. Donc sur cette question des élites et du peuple, je pense que c'est la question fondamentale. Et je pense que ça touche du doigt la question de la mondialisation ou de la globalisation. C'est-à-dire que dans un monde globalisé, bah, au fond, il y a ceux qui s'en sortent, il y a ceux qui ont une vision comme ça, ouverte, cosmopolite, qui se débrouillent, pour qui la vie est plutôt douce. Puis à tous les autres, pour qui la vie n'est pas douce, pour qui la vie est dure. Et tous les autres, ils ont le sentiment que les gouvernants nationaux et européens ne sont pas de leur côté. Ils ont le sentiment que les gouvernants nationaux et européens, ils sont au fond du monde de la mondialisation, du monde qui se retrouve à l'aise entre soi dans la mondialisation et dans la globalisation. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est ce logiciel-là qu'il faut complètement inverser. Et c'est là où est le paradoxe. Parce que c'est exactement là où on aurait besoin de réponses européennes. On aurait besoin d'une bonne réponse européenne, par exemple, pour protéger et pour défendre les intérêts des Européens, des entreprises, des salariés, des travailleurs.
Mais vous êtes députée européenne,
oui,
vous.
Et c'est la députée européenne qui vous le dit. On a des pays, des grands blocs comme les États-Unis qui se protègent, par exemple, vis-à-vis du commerce, on va dire chinois, pour aller vite, qui est une question que je connais bien. Il y a même des droits, quelquefois, jusqu'à 2000%. Chez nous, non. Ah non. Quand moi, je dis il faut défendre les intérêts des Européens, on me regarde avec des grands yeux en disant comment ? Mais enfin, il faut faire la concurrence. Non. On devrait être là aussi. L'Europe, elle devrait être là pour défendre défendre les intérêts
c'est
européens.
C'est ce que vous dites au Parlement.
Et c'est pas un gros mot. Je dis ça matin, les points. Midi et soir. Et je le dis aussi d'ailleurs aux dirigeants français. Deuxième exemple, sur la question du droit d'asile et des réfugiés. Est-ce que ça a été bien géré? Non, ça n'a pas été bien géré. Est-ce qu'il fallait accueillir les réfugiés syriens en Europe? La réponse est oui. Mais est-ce qu'il fallait le faire comme ça a été fait? La réponse est non. Et donc on voit bien que sur toutes ces questions, l'Europe, les chefs d'État et de gouvernement, non seulement ont une responsabilité pour hier, mais que maintenant il est vital pour demain d'apporter des réponses à ceux pour qui, ben, au fond, qui ne sont pas heureux dans la mondialisation. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et c'est ça la responsabilité des femmes et des hommes politiques. C'est de garder l'idée que ensemble c'est mieux, que unis on est plus fort, que oui, il faut être solidaire, mais qu'on est là aussi pour défendre l'intérêt des peuples.
Robert McLamwilson.
Je voulais juste dire que c'est un échec politique, bien sûr, mais je trouve que c'est dément de diffuser cet échec partout, parce que c'est une réussite pour la gauche, c'est là pour la droite, c'est une fête aujourd'hui pour la droite. L'échec, c'est l'échec de la gauche. Et en fait, moi, je trouve que le SNP, les nationalistes en Écosse, ont nous montré le chemin, parce que eux, ils ont autant de succès après le référendum, parce que c'était vraiment un discours gauchiste à l'ancienne. Et ils ont leur victoire a étonné à Grande-Bretagne, parce que c'était tellement inédit et inattendu. Et c'était juste un truc très simple. On parle comme on parlait il y a 30, 40 ans. Quoi. On parle aux prolétaires. Ils sont avec nous. Il y a quelque chose pour vous là. Et c'était un jeu de persuasion. Et c'est ça qu'il faut faire.
Sarah Picotte.
Moi, je critique la gauche comme gauchiste.
Et moins cynique que le discours ailleurs, parce que finalement, ils ont voté pour rester, tout en sachant qu'en restant, ils ne pouvaient pas avoir un référendum. Donc c'était beaucoup moins cynique ou instrumentaliste, si vous voulez, que ailleurs dans le pays.
Est-ce que vous avez des craintes, tous les trois, pour ce qui va arriver? Est-ce qu'on ne peut pas renverser les craintes ou l'inquiétude, on le sent dans votre propos aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne peut pas renverser un peu les choses et dire on sait que cette Europe, d'abord, existait sans les peuples, que donc c'est un avertissement, reprenant ce que vous dites, Marielle de Sarnez, aujourd'hui il faudrait que, et on doit faire, c'est un avertissement, du coup peut-être prendre vraiment les choses en main, premièrement. Deuxièmement, se dire que ça fait très longtemps qu'on pense quand même que l'Europe à 28, ça ne marche pas. Donc finalement, qu'on revienne à un noyau dur de l'Europe, pourquoi voir ça comme une catastrophe? Est-ce qu'on ne peut pas penser de cette façon-là? Robert McLamwilson.
Oui, je crois que c'est bien possible de réformer le projet européen. Mais je crois que c'est tellement choquant, ce résultat, qu'en fait les gens réagissent très émotionnellement. C'est les nouvelles qui arrivent à la maison, quoi, chez soi. Et moi, tout de suite, ce matin, j'ai téléphoné l'ambassade sud-irlandaise à Paris pour trouver mon passeport irlandais, parce que j'ai le droit. Et je pense aussi à propos de la nationalité française, parce que j'ai pas envie de faire partie d'un Royaume-Uni qui est tout renfermé, isolé, insulaire. Et c'est très difficile de juger la réaction politique, parce que les gens ont réagi tellement émotionnellement. Ils sont impliqués profondément.
Oui, on n'a pas encore le recul. Sarah Picard.
Je crois que tout le monde n'a pas cette version et très émotif par rapport à l'Union européenne. C'est parce qu'on... En France, peut-être qu'on voit avec les yeux d'extérieur, mais quelque chose de positif, comme on pourrait dire, c'est que au moins on va secouer peut-être l'Union européenne pour dire ben voilà, vous avez les faits, il faut changer. Mais simplement, moi je suis un peu plus pessimiste en disant que ça va faire un effet domino sur d'autres pays et des pays qui ont l'extrême droite qui va en profiter, et que d'autres pays qui vont essayer de négocier une sortie. Donc plutôt que de voir que c'est un moyen, si vous voulez, de réveiller l'Union européenne, je vois plutôt les effets négatifs qui vont s'enchaîner, qui ont déjà commencé d'ailleurs.
Marielle de Sarnez.
Je pense que, entre guillemets, il y en a qui se réjouissent aujourd'hui. Hein. Il y en a qui se réjouissent pour de bonnes raisons, de mauvaises raisons. Il y en a qui se réjouissent en disant « Oh, ben, la Grande-Bretagne n'est pas là, c'est super, on va pouvoir s'organiser, avancer vite et fort. » Ceci est une illusion. Je veux dire, ne pas comprendre ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, ça, c'est la mauvaise analyse. Je pense qu'il faut pas de statu quo, pas de replâtrage, et pas faire comme si rien ne s'était passé. Je veux dire, on ne va pas pouvoir dire, ah ben c'est super, on va avancer à quelques-uns. Oui, faisons peut-être des choses à quelques-uns, mais changeons de modèle. Rénovons la pensée européenne. Posons les choses de façon différente.
Mais comment ?
Réécrivons un texte d'orientation, une charte nouvelle d'une dizaine de pages qui disent qui est là, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Comment on veut le faire ensemble ? Inventons un modèle nouveau. Au fond, on a d'un côté un modèle, on va dire, bruxellois, pour aller très très vite, technocratique, de gestion du marché, hein, et trop technocratique, qui n'est pas assez politique. Et je pense qu'il faut vraiment mettre de la politique. De l'autre côté, on a ceux qui nous disent, ah ben, il faut que ce soit les États-nations. Et donc là, le risque, c'est égoïsme des États-nations. Et addition d'égoïsme, ça ne fait pas une vision, ça ne fait pas une solidarité, ça ne fait pas une puissance. Or, on a besoin d'une Europe puissance, qui soit une puissance, on va dire, tranquille, pas une puissance agressive. Mais si on pense qu'on va répondre aux défis du monde en étant chacun séparé, avec plus de division, plus de déconstruction, on se trompe. Donc il va falloir reconstruire. Mais ce que je vous dis là, c'est qu'il va falloir reconstruire de façon différente. Différente. Il va falloir, au fond, une révolution démocratique. Il va falloir du leadership européen pour porter cette révolution démocratique. J'ai une crainte, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République française et même Madame Merkel, parce qu'ils ont tous les deux des élections, et puis parce que s'ils avaient eu le leadership, on n'en serait pas là non plus aujourd'hui, n'est pas le leadership nécessaire. Et donc moi, je vous dis très rationnellement que je pense que cette question devrait être centrale dans la campagne présidentielle qui va s'ouvrir. Nous allons avoir encore des déstabilisations. On va avoir des déstabilisations peut-être en Italie. Hein. Matteo Renzi fait un référendum. Il a dit qu'il partirait si la réponse était négative. On va avoir le vote en Espagne. Peut-être le Partido Popular va gagner, mais il n'aura pas de majorité pour gouverner. On va être dans des moments difficiles. Il va falloir tenir. Il va falloir du sang-froid. Il va falloir de la volonté d'avancer.
Clash, revu par Los Fabulosos Cadillac, et oui, l'espoir européen maintenant en Espagne, puisque vous en parliez, Marielle de Sarnez, Should I stay or should I go now? Les Anglais, le Royaume-Uni ont répondu, et les autres, pas encore. L'espoir, sans doute, pour vous, en tous les cas. Et là, merci beaucoup à tous les trois, Marielle de Sarnez, Sarah Picard et Robert McLeam-Wilson, d'être venus nous parler à chaud de ces résultats du Brexit ce matin. Un grand merci à l'équipe qui s'est donnée beaucoup ce matin, en particulier Henri Leblanc, Clémence Marie, Lucie Aubourg, Tiffaine Malfette, qui ont beaucoup œuvré à ce que cette émission se fasse aujourd'hui de cette façon-là. La réalisation, c'était Philippe Baudouin, et la technique, c'était Pierrick Monsigny.